Il est une idée courante dans le christianisme aujourd'hui selon laquelle il est difficile d'être sauvé et par conséquent, il est facile d'être perdu. On a fait du salut quelque chose d'extrêmement fragile, d'extrêmement délicat. Je me souviens un jour avoir assisté à une cérémonie de baptême. Et lorsque le prédicateur était dans l'eau avec la personne à baptiser, il a été ému et il n'a plus trouvé les mots qu'il devait dire. Finalement, pris au dépourvu, sans savoir que faire, il a simplement dit « Je te baptise » et il a plongé la personne dans l'eau. À la sortie du culte, des personnes bien intentionnées sont venues poser la question et dit « Mais finalement, est-ce que le baptême est valable s'il a été fait de cette manière-là? Est-ce qu'il ne va pas falloir recommencer le baptême parce qu'il n'a pas dit ce qu'il fallait dire d'habitude ?» C'est un exemple, on pourrait en trouver bien d'autres, qui montre à quel point parfois nous suspendons le salut à quelque chose d'insignifiant, quelque chose de très secondaire, une peccadille parfois. On a fait du salut quelque chose de fragile. Et j'aimerais ce matin vous suggérer au contraire qu'il est difficile d'être perdu. Alors je sais, Jésus a parlé de cela et je vous propose de suivre avec moi ce texte qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 7 et au verset 13. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 13. Il est écrit ceci. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. » Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. C'est un constat triste, mais Jésus nous explique qu'il y a un chemin difficile. Mais dans d'autres endroits des Écritures, nous trouvons par exemple cette déclaration. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et puis ce passage que nous connaissons, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit puisse recevoir la vie éternelle. » Je crois qu'il est difficile d'être perdu. Écoutez par exemple ce paragraphe que je trouve dans le livre « Jésus-Christ ». Il est question là des pharisiens et des chefs du peuple du temps de Jésus, et l'auteur écrit ceci. Ne pouvant ni empêcher le Sauveur d'accomplir des miracles, ni le réduire au silence, il faisait tout ce qu'il pouvait pour le présenter sous un faux jour et fausser son enseignement. Néanmoins, la conviction produite par l'Esprit de Dieu les poursuivait et ils devaient se barricader pour échapper à son influence. La puissance la plus efficace qui puisse agir sur un cœur humain contestait avec eux et ils refusaient de céder. J'aime cette expression, il devait se barricader pour échapper à l'influence de Dieu. Il devait autrement dire résister de toute leur force pour ne pas être convaincu de la vérité. Et dans ce petit livre, Une vie meilleure, qui reprend les éléments du sermon sur la montagne, je trouve cette phrase. L'amour de Dieu a rendu difficile aux insouciants et aux entêtés de se détruire eux-mêmes. Je crois profondément cela. Je crois que Dieu a rendu le chemin de la perdition extrêmement difficile. Et j'aimerais ce matin vous suggérer qu'il est facile d'être sauvé, il est difficile d'être perdu. Entendez-moi bien, je ne suis pas en train de parler ici de ce salut à bon marché, où tout le monde dit « Oh Dieu est tellement bon qu'il va sauver tout le monde ». Ce n'est pas de cela que je parle. Je parle de la difficulté que le Seigneur met sur notre chemin pour nous empêcher de continuer sur la voie de la perdition. Et je crois que le Seigneur, sur cette voie de la perdition, a dressé cette montagne, cette barrière quasi insurmontable. Cette montagne géante qu'il nous faudra renverser, écarter, traverser, si nous voulons vraiment continuer sur le chemin de la perdition. La première de ces montagnes, il en est question dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40. Il y a là une déclaration très simple, très claire, que nous retrouvons aussi dans le Nouveau Testament, qui se trouve au verset 8. Ésaïe, chapitre 40, verset 8, dit ceci. « L'herbe sèche, la fleur tombe, Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Cette première montagne qui barre la route de la perdition, c'est la parole de Dieu. Cette parole que nous trouvons partout. Vous la trouvez sur les tables de nuit, dans les chambres d'hôtel, vous la trouvez dans toutes les librairies, vous la trouvez partout. Cette parole de Dieu écrite, elle est à la disposition de toutes, elle est dans tous les magasins. Elle n'a toujours pas été détruite. Je pense à cette enluminure de l'époque de la Réforme, ce dessin qui représente la Bible avec des gens armés de haches et de marteaux qui frappent dessus. Et en dessous était écrit ceci: « Tant plus à me frapper on s'amuse, tant plus de marteaux on y use. » Et je repense à l'expérience de ce prédicateur qui voulait conduire une série d'évangélisations dans une ville. Il va pour ça louer une salle en ville et il se rend compte que cette salle est très grande, elle est divisée en deux. Il va louer une partie de la salle et l'autre, il le découvre un peu plus tard, sera louée le même soir pour une soirée dansante. Alors il a réfléchi, il s'est demandé s'il allait poursuivre à cet endroit-là et puis il s'est dit, mais oui, finalement, peut-être que ça va intéresser un certain nombre de gens qui vont venir pour autre chose. Alors il a contacté le propriétaire de la salle, il lui a dit, je vous confirme que je prends la salle pour tel et tel soir. Et le propriétaire lui a dit, écoutez, réflexion faite, je ne peux pas vous louer la salle. Et pourquoi? Alors le propriétaire lui explique, lui dit, écoutez, il y a une soirée dansante à côté. Les gens viennent pour rigoler, les gens viennent pour s'amuser, et ils vont vous voir et rentrer dans la salle à côté avec votre Bible sous le bras, ça va ruiner l'ambiance, vous n'aurez pas cette salle. Même fermée, la Bible est encore puissante. La parole de Dieu, c'est une montagne qu'il va falloir renverser si l'on veut poursuivre sur le chemin de la perdition. Vous connaissez ce passage dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, où il est dit « Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » La parole de Dieu est véritablement une grande puissance. Et nous ne mesurerons la puissance de cette parole qu'au jour où Jésus reviendra pour nous montrer ce qu'elle a produit dans le cœur des hommes et des femmes que nous ne connaissons pas. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 55, se trouve cette promesse que vous connaissez, le verset 10 et 11. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli ses desseins. » Cette parole de Dieu qui est gardée dans la mémoire des uns et des autres, elle est présente, elle continue encore à faire son effet et elle portera ses fruits au moment opportun où Dieu arrosera cette semence. La parole de Dieu est une montagne. Il faudra l'enlever, la renverser, si l'on veut poursuivre ce chemin de la perdition. Et si jamais on y arrivait, on rencontrera une autre montagne sur ce chemin, dont il est question dans le livre des Actes, au chapitre 2. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, j'aimerais lire avec vous le verset 46 et 47. Il est question ici des premiers chrétiens au moment de la Pentecôte. Et à la fin de ce chapitre 2, il est dit ceci. « Ils étaient chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Cette deuxième montagne qui se dresse pour barrer la voie de la perdition, c'est l'Église. Vous vous souvenez, Jésus disait, « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » L'Église, c'est cette grande famille qui fait le tour du monde, qui reçoit la parole de Dieu. Et on ne peut pas se séparer d'une famille sans qu'il y ait des conséquences. On ne peut pas se séparer d'une famille sans avoir l'impression de rompre quelque chose de sacré. Je me souviens un jour, je parlais avec un monsieur qui avait abandonné l'Église depuis plus de 20 ans. Et dans la discussion, il me disait, Mais vous savez, chez nous les adventistes, nous faisons ceci et cela. Et il l'a répété plusieurs fois. Et je lui ai dit, mais vous voyez que vous êtes encore chez vous, à l'église. Et il ne s'était pas rendu compte de la façon dont il s'exprimait. Il était lui-même surpris de voir qu'en fait, ses paroles trahissaient le fond de son cœur. Ça faisait longtemps qu'il ne venait plus à l'église. Très longtemps. Mais l'église était quand même le lieu auquel il appartenait. C'était chez lui. L'église, ce sont toutes ces activités que nous avons vécues les uns et les autres. Ce sont ces activités de l'école du sabbat. Ce sont les saintes cènes, les cérémonies de baptême, les chorales, les fêtes de Noël, les activités de jeunesse, le travail que nous avons fait ensemble pour la construction, les après-midi que nous avons passés ensemble à nous détendre, les moments que nous avons passés ensemble à prier, à lutter dans la prière et l'intercession. L'Église, c'est tout cela. Et c'est une montagne parce que cette Église, elle est aussi, selon les Écritures, la colonne de la vérité. C'est elle qui va défendre cette vérité biblique et la proclamer au monde. Et on ne peut pas se séparer de l'Église sans couper quelque chose de sacré. L'Église, c'est cette montagne qu'il faudra écarter si l'on veut poursuivre sur le chemin de la perdition. L'Église, ce sont aussi tous ceux qui prient, qui intercèdent pour nous. Ce sont tous ceux qui sont avec nous lorsque nous traversons des temps difficiles. Ce sont tous ceux que nous rencontrons et qui sont peut-être devenus, pour certains d'entre nous, la seule famille qui nous reste au monde. La seule famille où nous avons des frères et des sœurs. L'Église, c'est peut-être des gens qui sont plus proches de nous que nos vrais frères et nos vraies sœurs qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. C'est une montagne énorme que le Seigneur place sur le chemin de la perdition pour nous empêcher de continuer et de poursuivre dans cette voie. Et si jamais on arrivait encore à renverser cette montagne, il s'en dresserait encore une autre dont il est question dans le psaume 90, au verset 12. Moïse écrit ceci. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. » La sagesse. Permettez le bon sens. Le bon sens de celui qui réfléchit et qui cherche quelque chose de logique, quelque chose qui réponde à ses besoins. Cette parole de Dieu, elle a du bon sens. Et elle touche le cœur de tous ceux qui en ont et qui l'exercent. Écoutez, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez passer l'éternité avec un Dieu d'amour dans un monde sans péché? Ou vous préférez vous réincarner dans des choses, des animaux ou d'autres gens jusqu'à ce que vous soyez suffisamment bon pour devenir un Dieu? Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous préférez? Passer l'éternité dans le monde que Dieu prépare où le péché n'est plus, avec un Dieu d'amour, ou dans un monde dominé par la science, qui cherche à toujours améliorer les techniques pour allonger la vie? Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous préférez? Être l'enfant d'un Père céleste qui est capable d'envoyer Jésus pour mourir pour nos péchés, que nous soyons sauvés? Ou préférez descendre du singe? Qu'est-ce que vous préférez? Et quand vous voyez le monde, il est évident que ce monde qui fonctionne comme une horloge, depuis l'atome le plus petit jusqu'aux astres qui gravitent à des années-lumière, dans un ordre parfait, cette horloge, elle doit avoir un horloger. La parole de Dieu nous invite à exercer notre bon sens. Dans les Proverbes, il est dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Et je pense à ce passage dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 1er. Dans ce chapitre, Dieu exprime sa frustration et il invite le peuple à venir et à avoir du bon sens, à réfléchir avec lui. Regardez dans Ésaïe, chapitre 1er, au verset 3, ce qu'il est dit. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Et Dieu est frustré en disant, mais enfin, les animaux savent à qui ils appartiennent et mon peuple ne le sait pas. Alors, un peu plus loin dans le même chapitre, il propose, verset 18. Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Venez, réfléchissons ensemble. Ayez un peu de bon sens. Ça aussi, c'est une montagne gigantesque que le Seigneur place sur la voie de tout homme qui veut aller vers la perdition. C'est une montagne énorme. Celui qui réfléchit avec bon sens voit sa route barrée dans la mauvaise direction. Il ne peut pas poursuivre dans cette direction de perdition. Et s'il y arrive, eh bien, il y a encore une autre montagne qui se dresse là. Une montagne gigantesque dont il est question dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er. Au verset 9, il est dit ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Cette montagne énorme qui se dresse sur le chemin de la perdition, c'est la prière. Les uns et les autres ont déjà fait l'expérience de la puissance de la prière. La prière, c'est la mienne, c'est ma prière, mais c'est aussi la prière de mon Église qui prie pour moi. C'est la prière de mes amis qui intercèdent pour moi. C'est la prière des autres. C'est la prière de Jésus qui prie pour ses enfants. Jésus s'était adressé à Pierre et lui avait dit, « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » La prière est une montagne énorme, que non seulement Dieu dresse sur le chemin de la perdition, mais c'est une montagne qui s'agrandit encore lorsque l'Église prie. Il y a de nombreuses années en arrière, j'ai travaillé avec un collègue pasteur italien. Et le soir, on se retrouvait, on discutait, on partageait, et un soir, il m'a raconté son expérience personnelle. Il avait grandi en Italie, sa maman était chrétienne, très pratiquante, mais son père était communiste. Le mélange était un peu explosif. Et lui-même, dans sa jeunesse, avait pris totalement parti pour son père et les idées de son père et le dynamisme qu'il y avait dans le groupe qu'il fréquentait. Il savait bien ce que sa mère croyait, elle lui en parlait souvent, mais il ne voulait rien entendre. Et il me disait, « Je me suis réveillé plusieurs fois, la nuit, en sentant comme une espèce de présence dans ma chambre. Et après avoir regardé, je trouvais ma mère à genoux au pied de mon lit. Elle priait. Et il me disait, je l'ai chassée de ma chambre à coups de pied. J'ai pris sa Bible, j'en ai déchiré les pages, j'ai jeté sa Bible par la fenêtre. Mais cet homme me disait, aujourd'hui je suis prédicateur de l'Évangile à cause de la prière de ma mère. Et je crois que Dieu écoute d'une façon particulière la prière des mamans. D'ailleurs, dans l'épître de Jacques, il est dit « La prière du juste est d'une grande efficace. » C'est une montagne énorme. C'est une montagne gigantesque. Et il faudra renverser cette montagne si l'on veut poursuivre sur le chemin de la perdition. Et si jamais on y arrivait, il y aurait une cinquième montagne encore qui se dresserait devant nous. Il en est question dans l'Évangile de Jean, chapitre 8. Évangile selon Jean, chapitre 8. Il nous est raconté là cette rencontre de Jésus avec cette femme qu'on a apportée, qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Et Jésus, vous vous en souvenez, ne dit rien, il écrit. Au verset 8, il est dit ceci. Après avoir dit que celui qui a péché jette la première pierre, s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Accusés par leur conscience. Cette cinquième montagne qui se dresse devant nous pour barrer la voie de la perdition, c'est cette conscience qui agit en nous et qui agit en tous. Même les enfants, les plus petits, réagissent à l'action de leur conscience. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, l'apôtre Paul explique que ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas les Écritures, qui n'ont rien entendu de la parole de Dieu seront jugés en fonction de ce qu'ils auront fait avec leur conscience. Et l'on comprend par là que le Saint-Esprit travaille par la conscience de chacun. L'action du Saint-Esprit, c'est cette montagne énorme qui se dresse devant nous pour nous empêcher d'aller dans la mauvaise voie. Elle travaille chez tout le monde. Elle travaille avec puissance, avec persistance, avec insistance pour nous décourager d'aller dans le mauvais sens. Chacun a devant soi cette montagne parce que Dieu travaille dans le cœur de chaque être humain par l'action de son Saint-Esprit. L'apôtre Jean explique dans son évangile au chapitre 16 ce que Jésus disait. « Je vous enverrai consolateur parce qu'il a un pouvoir, c'est de nous convaincre de péché. » C'est une montagne énorme qu'il faudra renverser, qu'il faudra balayer encore pour pouvoir poursuivre sur le chemin de la perdition. Et si jamais on arrivait à l'écarter, il s'en dresserait une autre, une sixième, dont il est question dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, et je vous propose de lire le verset 35. « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim ? Ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. » Cette sixième montagne qui se dresse dans nos vies, ce sont toutes les difficultés qui s'amoncellent parfois dans la vie de certaines personnes. Et nous ne comprenons pas toujours pourquoi. Le diable, parfois, s'amuse à jeter sur notre chemin des difficultés énormes. Mais dans le même chapitre, quelques versets plus haut, verset 28, Romains chapitre 8, verset 28, il y a l'antidote. Nous savons au reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Autrement dit, que le diable amoncelle toutes les difficultés qu'il veut, le Seigneur a cette puissance de tout faire concourir au bien de ceux qui le cherchent et qui l'aiment. D'ailleurs, je pense que régulièrement, le diable ne sait plus à quel saint se vouer, si je peux m'exprimer ainsi, parce que finalement, plus il met de difficultés sur notre chemin, plus souvent il nous jette à genoux dans la prière pour demander à Dieu d'intervenir en notre faveur. Ainsi, bien souvent, plus le diable nous attaque, plus finalement nous cherchons à être près de lui et à recevoir sa grâce. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau. Regardez dans l'histoire à quel moment l'Église a été le plus fidèle, la plus persévérante, et attaché à la vérité. C'était dans les moments de persécution. Et encore aujourd'hui, où l'Église grandit-elle le plus dans le monde? Dans les endroits les plus difficiles. Mais là où le diable déroule devant nous le tapis rouge, l'Église s'endort. Ainsi, les difficultés sont une montagne insurmontable pour certains, qui barre la route de la perdition, mais qui nous met à genoux pour rechercher la présence de Dieu. C'est encore une de ces montagnes qu'il faudra écarter pour continuer notre voie dans le mauvais chemin, si vraiment nous voulons y aller. Et si véritablement nous avons réussi à renverser toutes ces montagnes-là, si véritablement nous avons réussi à les surmonter, à les écarter et à faire fi de toutes ces barrières que le Seigneur met sur notre chemin, sur les mauvais chemins que nous pouvons prendre, il est une dernière montagne que le Seigneur va y dresser. Il en est question dans l'évangile de Luc, au chapitre 23. Au verset 33, il est écrit ceci. « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que deux malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. » Cette dernière montagne que le Seigneur place sur cette voie de la perdition pour nous empêcher d'aller plus loin, c'est le calvaire. C'est cet endroit où Jésus a donné sa vie, pour que nous puissions être sauvés. C'est une montagne énorme, insurmontable. D'ailleurs, le centenier romain qui était là n'a pas été plus loin. Il a reconnu là que cet homme était le Fils de Dieu. L'un des larrons qui était avec lui sur la croix, un de ses brigands, lui aussi n'a pas été plus loin sur le chemin de la perdition. Il a reconnu là qu'il avait à côté de lui son sauveur personnel. Et depuis, cette montagne a empêché des foules entières de persévérer sur le chemin de la perdition. Elle s'élève énorme pour nous barrer la route. Alors si vous avez aujourd'hui l'impression d'avoir rencontré ces montagnes sur votre chemin, c'est simplement parce que le Seigneur veut rendre difficile le chemin de la perdition pour tous ceux qui s'y engagent. Si vous avez l'impression que ces montagnes se dressent devant vous, pourquoi donc ne penseriez-vous pas qu'il est temps de changer de chemin, de prendre un autre chemin? Et le chemin que le Seigneur nous propose, il est fort simple. Jésus disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Suivez-le. » Amen.